regarde au voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, on est à Dakar. On est à Dakar pour la 4e édition de RFI Challenge Up Afrique. Et à la clé, un prix qui va récompenser la meilleure application mobile pour le développement intelligent des villes. On enregistre cette émission à l'Institut français avec le public qui est venu soutenir et féliciter les 3 finalistes du prix. Alors, comment améliorer la vie des habitants dans les villes africaines grâce à des applications connectées, une technologie, un concept importé clairement des pays industrialisés? Est-ce que cette technologie, ce concept peuvent régler les désordres liés à la croissance urbaine et au secteur informel? On va en discuter avec d'abord les 3 finalistes que je vais vous présenter, qui sont venus du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et puis aussi le Sénégal, sur place. Nadia Hilary Dassi, bonjour.
Bonjour.
Nadia Hilary Dassi, vous avez 23 ans, vous êtes donc venue de Douala pour être finaliste de ce prix RFI Challenge Up Afrique. Vous avez conçu avec votre équipe un projet qui s'appelle Green Electricity. Green Electricity, donc au Cameroun, une application mobile qui permet aux populations de produire une énergie verte à partir de leurs déchets ménagers. Expliquez-nous en quelques mots pour que le public comprenne.
Green Electricity, c'était cette application qui permet de faire la collecte des déchets. Les déchets sont collectés auprès des ménages, des entreprises, avant qu'ils n'arrivent sur la voie publique. Une fois ces déchets collectés, ils sont conduits vers l'usine d'incinération d'ordures ménagers ou de l'électricité ainsi générée. Cette électricité est transmise aux populations via le réseau de distribution actuel déjà existant. Le but ici, c'est non seulement assainir nos villes, mais également augmenter le niveau d'accès des populations à l'énergie électrique.
Très bien, vous restez bien sûr avec nous. On vous applaudit. Bravo. Ndey Siratiam, bienvenue à vous. Vous êtes donc sénégalaise, 22 ans. Vous êtes étudiante à l'École supérieure polytechnique de Thiès. Et le projet que vous portez avec votre équipe sénégalaise, c'est une application mobile qui permet de payer, entre autres, de payer son ticket de bus avec son téléphone.
Oui, bonjour, merci. Notre application e-bus va bien au-delà de ça. Donc, nous sommes partis du constat qu'il y avait beaucoup de manquements dans le secteur du transport à Dakar. Déjà, les gens perdent beaucoup, énormément de temps dans ces transports dû à l'encombrement, les embouteillages, mais aussi les difficultés à acheter des tickets et le manque d'informations liées au transport. Donc, ce que nous proposons, c'est une application qui leur permet de gagner du temps. En quoi faisant ? En achetant leur ticket à partir de leur mobile.
Avec un QR code, qu'on présente au receveur.
Oui,
qui lui-même a un téléphone, un smartphone, pour pouvoir encaisser ensuite le paiement par paiement mobile.
Oui, exactement, c'est ça.
Donc là, c'est vraiment une solution connectée pour permettre de davantage fluidifier le trafic et faire en sorte que les usagers soient mieux informés aussi de quel bus est en route, combien de temps on va attendre son bus, etc.
Exactement, c'est ça en fait. Donner à l'usager les outils pour optimiser son voyage en fait. Ne pas passer autant de temps dans les transports parce que en fait, ce n'est pas nécessaire et on a autre chose à faire.
Kevin Cessé est avec nous également, venu d'Abidjan. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Kevin, vous avez 26 ans.
Oui.
Votre projet qui vous a fait arriver en finale, comme Nadia et Ndey, c'est une plateforme qui s'appelle Mon Artisan en Côte d'Ivoire, une plateforme connectée qui permet aux utilisateurs de solliciter des artisans locaux, ça peut être des plombiers, des électriciens, des maçons, pour aller faire des travaux chez des particuliers.
Donc en gros, en Afrique, le gros de la main-d'œuvre travaille dans le secteur informel et cette main-d'œuvre manque de visibilité. Et nous avons en face des clients qui sont des entreprises ou des ménages qui peinent très souvent à trouver des prestataires qualifiés pour de petites pannes à domicile. Donc Mon Artisan est venu pour résoudre ce problème-là. Mon Artisan, c'est une plateforme de compétences à la demande autour des métiers informels, communément appelés petits métiers. Donc notre solution permet de référencer les artisans et travailleurs informels, de tester et certifier leurs compétences et enfin de les connecter aux clients majoritairement issus de la classe moyenne. Donc.
Ça veut dire que ce n'est pas seulement du bouche à oreille qui tout d'un coup est retranscrit dans un smartphone, c'est aussi derrière toute une meilleure sécurisation pour ces emplois informels,
bien
souvent
sûr.
D'ailleurs détenus par des jeunes.
Bien sûr. Donc en amont, nous sélectionnons ces artisans-là selon un process très rigoureux. Donc ça part de tests pratiques, d'entretiens de motivation, d'une vérification de leurs références clients avant de les référencer sur notre plateforme et de les rendre facilement accessibles à toute la clientèle.
Je voudrais quand même tous les trois que le public mesure bien, que ce soit pour des problématiques de déchets, d'énergie verte, d'emploi informel, de transport, de mobilité dans la ville. Tous les trois, vous étiez au départ dans une masse de 400 dossiers qu'on a reçus à RFI pour RFI Challenge App Afrique. Ensuite, il en est resté 145. Vous étiez toujours dedans. Ensuite, il est resté 10 finalistes. Vous étiez toujours dedans. Et là, aujourd'hui, vous êtes les trois finalistes du concours. On peut vous applaudir. 22 ans, 23 ans, 26 ans. Je crois que vous dites beaucoup de choses aussi sur la jeunesse sénégalaise. On l'a vu pendant le jury ce matin. Vous êtes tous compétents, motivés, très résistants aussi au stress du jury, parce que ça a quand même été dur, hein, le challenge du jury, non ? Honnêtement. Oui, il y a un petit sourire, mais ils ne veulent même pas en parler.
Surtout les questions.
Ils sont traumatisés. Bon, à la fin de notre émission, en tout cas, dans le public, vous allez connaître le gagnant parmi ces trois finalistes. Claire Edon, responsable des magazines à RFI, viendra remettre le prix et le chèque de 15 000 euros pour développer l'application qui a convaincu le jury. Jury que j'ai eu l'honneur de présider, l'honneur et le plaisir. Alors, je vous présente nos invités qui étaient membres du jury ce matin, à l'heure où nous enregistrons cette émission. Carole Henry, bonjour.
Bonjour à tous, je suis Carole Henry, directrice de l'innovation et du digital au sein d'Engie Afrique. Et je voulais tout particulièrement remercier RFI et surtout remercier les finalistes. Vos projets sont vraiment fantastiques et vous avez vraiment tenu bon face à nos questions. Et je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment du succès.
Pour ceux qui ne sauraient pas, Engie Afrique, ça produit du
Alors,
gaz naturel.
Des services à l'énergie. Nous produisons des services, par exemple, du Solar Home System pour les petites communautés. Nous produisons des grandes centrales d'électricité. Nous sommes présents dans à peu près 22 pays. Et nous souhaitons faire de l'Afrique un lieu où nous pouvons promouvoir les énergies renouvelables et surtout la transition zéro carbone.
Et vous êtes partenaire du Challenge App Afrique. Edem Dalmeda, bonjour à vous.
Bonjour Emmanuel, bonjour Dakar et bonjour les auditeurs.
Edem Dalmeda, vous êtes directeur général de Africa Global Recycling au Togo. C'est une entreprise, une PME qui récupère, qui revend les déchets pour être recyclés, notamment le plastique. Vous avez d'ailleurs vous-même été lauréat du prix international de la francophonie pour la jeunesse et les emplois verts. Vous avez gagné d'autres prix. Vous avez été un des durs dans le jury pour cuisiner les finalistes. On sent que voilà, vous êtes passé par là, vous aussi, Edem, et vous êtes partenaire du prix.
Oui, effectivement, oui, je suis passé par là et je suis toujours d'ailleurs dans ce processus. Et je ne sais pas si on en finit. Je ne sais pas si c'est dur, mais en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est une réalité. L'entrepreneur, j'ai l'habitude de dire que c'est une histoire. Et cette histoire, il faut pouvoir la vendre, il faut pouvoir séduire, il faut pouvoir embarquer. Et tout en étant et en restant réaliste. Et donc, ça a été l'objet de mes interventions ce matin.
Oui, effectivement, vous ne laissez rien passer. Avec nous également Didier Akouété, président du cabinet de conseil Afrique Search et occasionnellement le coach chez 7 milliards de voisins.
Bonjour Emmanuel, bonjour Dakar.
Voilà, vous étiez aussi
Dakar
dans le jury ce matin.
Bah oui, bah toujours un bonheur d'être là, 7 milliards de voisins, le coach. Et puis nos trois finalistes brillants, c'est vrai, des super projets. Et c'est un peu à l'image de cette Afrique qui vit, qui transforme, qui change, qui invente. Et c'est toujours très rafraîchissant pour les jeunes vieux que nous sommes.
Également avec nous, parmi nos invités, un organisme officiel sénégalais, Hardiata Ndiaye. Bonjour à vous, merci d'être avec nous.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes directrice de la promotion à la DER au Sénégal. C'est la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide qui finance, qui accompagne les jeunes et les femmes. Les jeunes, c'est jusqu'à 40 ans. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc nous sommes un organisme de l'État du Sénégal. Avec un budget de 45,7 millions d'euros pour accompagner les jeunes et les femmes et aussi les acteurs du numérique. Par exemple, l'année dernière, Nous avons investi sur des jeunes créateurs comme vous 1,5 million d'euros pour les aider à rendre notre ville plus propre, plus sûre, plus belle, plus économe.
Ouais, sur la partie numérique, il y a effectivement un budget dédié pour les start-up. Et quant à vous, les voisins et les voisines, vous avez la parole. Dites-nous quelles sont pour vous les priorités en ville. Qu'est-ce que vous attendez finalement de la technologie au regard de vos problèmes quotidiens dans cette croissance urbaine de plus en plus difficile à maîtriser? Est-ce que la technologie peut vraiment apporter quelque chose ou pas? D'ailleurs, sentez-vous libre d'intervenir. On fera passer un micro.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est 7 milliards de solutions possibles.
Communiquons le plus possible.
Plus qu'une émotion, c'est devenu une famille.
Tout part d'un rêve, tout part d'un rêve.
C'est 7 milliards de cœurs qui se mettent en commun pour n'en former qu'un seul.
Voilà, tout part d'un rêve, c'était en tout cas le rêve des finalistes d'arriver jusqu'à Dakar, d'être parmi les trois derniers sur 400 dossiers. Alors si on revient quand même à la thématique, cette nouvelle thématique qui devient assez médiatisée, Didier Akwété, des smart cities, ça devient très à la mode. Il y a eu une conférence d'ailleurs hier à Dakar sur cette thématique sous le parrainage du président de la République, du président de la Banque islamique de développement. Qu'est-ce que ça peut être une ville intelligente en Afrique, Didier Akwété?
En réalité, si vous voulez, si on considère qu'aujourd'hui 50% de la planète vit dans les villes et qu'ils seront plus de 70% à raison 2050, ça veut dire qu'il faut organiser les villes pour que ce soit plus agréable à vivre. Parce qu'en réalité, sans parler de surpopulation des villes, il y aura un phénomène de saturation. Donc comment est-ce qu'on rend les villes plus agréables? Et quand on dit une ville intelligente, en gros, c'est comment on régule la vie dans la cité pour que ce soit le plus digeste facile pour les habitants que nous sommes, que ce soit la gestion de la circulation. On est à Dakar, regardez l'enfer que c'est de circuler à Dakar d'un point à l'autre. Ce n'est pas une ville agréable, ce n'est pas une ville intelligente quand c'est aussi saturé. Que ce soit les coupures d'électricité qu'on a en Afrique du Sud ou les coupures d'eau, etc. Donc la mobilité, la vie au quotidien, quand ça devient trop compliqué, ça veut dire que la ville n'est pas assez intelligente pour rendre la mobilité, la vie, le bien-être aussi simple qu'on le voudrait. Et à ce point qu'on se demande s'il ne vaudrait pas mieux retourner au village de temps à autre, parce que finalement, les villages ont l'air plus intelligents que les villes, in fine.
Ouais, ça lance bien le débat, Ardiata Ndiaye. Oui, est-ce qu'il faut vraiment revenir au village pour vivre ensemble de manière intelligente?
Le village a aussi ses problèmes. Le village a aussi ses problèmes de santé, ses problèmes d'infrastructure, ses problèmes d'animation de l'économie locale. Comment faire en sorte pour qu'il y ait plus de richesses dans les villages? Donc, ça veut dire aujourd'hui, la ville africaine est vraiment un terrain très fertile pour le numérique, pour la ville qui en était, que ce soit dans le milieu urbain comme le milieu rural. Les objets connectés, tout ce qui est big data, doivent être des réalités pour que les populations vivent mieux.
Edem Dalmeda.
Pour moi, la ville durable, il faut ramener ce concept à la maison. Je veux une maison où je vis bien, je veux une maison où je vis mieux, je veux une maison où mes enfants se sentent mieux, où je sens l'air circuler, où je vis. Voilà. Et puis, il faut se rendre compte aussi que le développement durable, ou en tout cas les objectifs du développement durable, ont bouleversé tous les codes et font de nos mots, MAUX, des opportunités de développement pour nos villages, pour nos villes, pour nos maisons, pour nos États. Donc, c'est en ça que je ramène le concept de ville durable ou même de ville intelligente.
Ouais. Carole Henry de NG Africa, est-ce qu'une ville intelligente en Afrique, c'est automatiquement une ville qui doit chercher l'excellence technologique?
Pas nécessairement. Je pense qu'on doit déjà essayer de résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Par exemple, NG Afrique est très engagée dans la mobilité verte. Le gouvernement sénégalais, par exemple, nous a confié la réalisation du petit train de banlieue. Et le gouvernement marocain nous a confié la réalisation du tramway de Casablanca. Nous sommes très engagés justement sur les mobilités, mais sur une mobilité dont l'énergie est verte. Notre credo aujourd'hui, notre stratégie, c'est la transition zéro carbone. Donc je pense que nous pouvons régler les problèmes, en tout cas aider à régler les problèmes d'aujourd'hui, prévoir les problèmes du futur.
Ça, notamment pour mieux respirer, par exemple, à Dakar.
Voilà, mais avec des moyens qui seront autour des énergies renouvelables, autour d'une vraie politique de préservation de l'environnement et des citoyens.
Alors, bien sûr, on a parlé de cette croissance urbaine. Dans 5 ans, 187 millions de personnes supplémentaires vont habiter dans les villes africaines. C'est l'équivalent de la population du Nigeria, tout d'un coup, comme si tout le Nigeria allait se déverser dans les villes africaines. Ça donne quand même aussi la mesure de la complexité pour trouver rapidement des réponses relativement simples, des solutions relativement simples. On va donner la parole à des auditeurs qui sont dans la salle de l'Institut français. Seydina est avec nous, Seydina.
Bonjour.
Alors, on vous a posé la question au démarrage. Vous, comment vous sentez cette offre technologique qui arrive, où on voit vous raconter qu'on va améliorer votre vie quotidienne grâce à un smartphone pour mieux vivre en ville?
J'ai été surpris quand j'ai entendu le projet de Ndeye Cham, parce que moi aussi, c'est sur ce même problème que je suis venu parler, alors que je ne savais même pas que Ndeye portait ce même projet. Comme Emmanuel, vous venez de le dire, au moment de l'ouverture, les transports en commun à Dakar, c'est de la vraie galère.
Ouais. Vous êtes étudiant, vous êtes obligé de prendre le bus.
Moi, je suis étudiant, je suis obligé de prendre le bus. Et en le disant même, en venant à l'émission de 7 milliards de voisins avec mon ami, on a un peu galéré parce qu'on n'a pas pu connaître le bus à prendre. On n'a pas pu savoir quel est le trajet que le bus doit prendre. Et comme ça, on s'est connecté à travers notre smartphone pour essayer de nous localiser et attendre le bus.
Parce que vous n'avez pas forcément l'habitude de venir au plateau, par exemple, là où est situé l'Institut français.
Non, on n'a pas l'habitude de venir ici. Donc c'est un vrai problème ici à Dakar. Souvent, en me déplaçant ou bien en allant au travail, avant de sortir chez moi, vraiment, j'ai des traumatismes. Pourquoi ? Parce que je pense tellement au transport. Et c'est un vrai problème. Et quand je vois maintenant qu'il y a des technologies nouvelles qui viennent ici au Sénégal, il y a des petites start-up qui naissent, il y a des progrès qui sont en train d'être faits. Avec, par exemple, le Sama Taxi, c'est une application que j'ai vue en ligne et qu'il y a quelqu'un qui l'a lancée comme une application de Ndeye. Donc, qui permet quand même de pouvoir détecter un taxi à partir de l'application qui se trouvant au niveau de son smartphone, de savoir que voilà, il y a un taxi, c'est-à-dire comme c'est comme un système d'Uberisation. Oui. Maintenant, à proximité, il y a un taxi. Automatiquement, avant de sortir chez moi, voilà, je fais le trajet, je connais le trajet à prendre, je connais le taxi à prendre.
Vous êtes prêt à payer un peu plus cher parce que toutes ces applis, il faut bien qu'elles soient financées quand même. Hein. Il y a une petite entreprise qui va prendre des commissions, tout ça. Vous êtes prêt à payer un peu plus cher que le ticket de bus de base?
Parfaitement, mais pas tellement payer encore des commissions parce que aussi il y a une application.
Un petit peu plus, mais pas trop, c'est ça?
Mais pas trop aussi, oui. Parce qu'il y a aussi un jeune start-up que j'ai vu récemment et qui parlait de ça. L'application maintenant est développée. Maintenant, il y a la possibilité de choisir le type de taxi à prendre, de connaître le nom du chauffeur, de connaître aussi le nom du véhicule, toutes ses particularités. Par exemple, aujourd'hui, le président de la République a lancé le projet BRT. Donc là, vous avez la possibilité.
Bus rapide transit.
Un
système de bus hérité d'ailleurs d'une innovation en Amérique latine, avec des bus qui se succèdent très très rapidement sur des couloirs spécifiques.
Parfaitement. Et avec ces bus-là, vous avez la possibilité, si vous venez et que vous n'avez pas trouvé encore le bus qui est là, vous avez la possibilité de savoir à travers votre smartphone que le prochain bus BRT va arriver à telle ou telle heure. Et vous avez la possibilité de savoir connaître le trajet et en même temps de savoir approximativement quel est le temps qui doit être émis pour arriver à destination.
Merci beaucoup, Seydina, pour ces préconisations, ce témoignage. Merci à vous, Seydina. Allez-y, si vous voulez bien vous présenter.
En fait, je m'appelle Muntaga Pouy. Je suis étudiant à l'université Cheikhanta Diop, à la faculté de droit. L'émission, je suis venu comme ça, parce que je venais à la bibliothèque pour chercher un livre. Je voulais juste apporter quelques précisions. Moi, je sors chez moi vers 4 heures du matin. Pour arriver en ville, il faut que je me retrouve ici à 9h30.
Pour aller en cours à l'UCAD.
Oui, donc c'est grave. Donc c'est parfaitement, mais je vois que le problème aussi doit s'orienter à la sensibilisation des jeunes à être capables d'être tout simplement des vecteurs, tout simplement de développement de leur ville à travers les applications, à travers... Parce que voilà, c'est un problème.
Le transport, la mobilité, c'est vraiment un sujet qui revient beaucoup, Didier Akwété.
Non, mais effectivement, et on le voit dans nos villes. Ce que dit Seydina, tout à fait symptomatique de comment on peut vivre une ville. Et quand on prend une cité-État, une ville comme Singapour, on dit que c'est la plus smart city dans le monde. Effectivement, sur un territoire de 700 km², où vivent 6 millions d'habitants, quand vous êtes à Singapour, vous ne sentez pas en fait la pression démographique parce que les transports sont tellement bien interconnectés, que ce soit le bus, le métro, le vélo, à pied. Et en fait, toute cette connectivité qu'on facilite pour les populations à Singapour rend la ville extrêmement agréable, avec une ville très très verte. Et c'est vrai, on peut arriver à des systèmes de mobilité urbaine aussi faciles en Afrique si on arrive à avoir des projections d'abord de développement de la population dans les villes et à connecter avec effectivement ces applications et les modes de transport. Et deux chiffres, la densité d'habitants à Singapour, nombre d'habitants par kilomètre carré, c'est à peu près 8000 habitants.
8000 habitants au kilomètre carré.
Au Nigeria, nous sommes sur quelque chose comme 250. La France, je crois que c'est 150. Donc, vous voyez un peu cette concentration dans une ville, mais qui rend la ville néanmoins aussi facile à vivre. Et ça donne une idée de la manière dont on peut mieux organiser, mieux gérer la mobilité dans les villes, qui est vraiment un vrai sujet. Parce que le temps qu'on perd d'un point à un autre en termes de PNB...
Le temps et l'argent aussi.
Ah bah évidemment, c'est
si on prend une ville comme Abidjan, les transports, c'est 30% du budget des ménages. Bon. C'est énorme.
Bah en termes de création de richesses, vous voyez tout ce qu'on perd en termes de création de richesses et de PNB.
Hardiat Ndiaye.
Oui, au-delà de la mobilité, c'est surtout préciser que, en fait, il ne faut pas qu'on soit contemplatif. Parce qu'il y a des solutions. Ces villes, elles réussissent à gérer, à être connectées, à être intelligentes. Parce qu'elles mettent à la disposition de leurs entrepreneurs les infrastructures, l'accompagnement qu'il faut et les financements qu'il faut. Et aujourd'hui, au Sénégal et pour l'Afrique, parce que l'incubateur Mohamed Ben Zayed Innovation Center que nous allons mettre en place avec un financement de 50 millions d'euros, avec une contribution d'un fonds émérite et une contribution de l'AFD, c'est pour permettre à la jeunesse africaine d'innover, de proposer des solutions à leurs problèmes qu'ils vivent au quotidien, des
c'est
problèmes
ça.
De mobilité.
On part bien des besoins de la population.
Exactement.
On n'est pas dans une logique seulement de l'offre.
Exactement, exactement.
On va donner la parole dans le public. Louis a 24 ans, il a terminé sa licence. Bonjour Louis.
Bonjour tout le monde, je salue tout le monde. J'ai terminé mes études en géologie, donc je viens de commencer il y a 6 mois dans une entreprise en dehors de Dakar. Donc pour dire que comme disait monsieur, peut-être les villages sont plus intelligents que les villes. Parce que là-bas, je n'ai pratiquement pas de problème d'embouteillage. Mais quand je viens à Dakar en ville, il y a des problèmes d'embouteillage. Donc c'est sur cela que je vais axer mon intervention. C'est-à-dire essayer de développer des systèmes qui permettront pas seulement à ceux qui prennent les bus, mais ceux qui ont leur véhicule de pouvoir se déplacer dans la ville, dans la capitale, en évitant les embouteillages.
Ouais. Vous voulez aussi parler de l'éclairage urbain. Et c'est vrai que ça, on en parle beaucoup moins.
Voilà. Si on pouvait vraiment développer des applications ou bien des systèmes qui permettront en fait d'éclairer toute la ville, soit en fixant des panneaux solaires en haut des édifices, soit aussi en permettant l'installation de bornes électriques qui permettront déjà d'éclairer la ville, mais aussi de permettre à ceux qui se déplacent de pouvoir brancher leur smartphone ou bien recharger leur PC quand ils iront dans un rendez-vous ou bien dans un quelconque point. C'est ça, en fait, les besoins que j'ai vraiment ressentis ici à Dakar, ouais. En termes de ville urbaine.
Carole Henry, sur cet éclairage urbain, il y a maintenant des expériences intéressantes, notamment pour faire des économies aussi d'éclairage urbain, où les rues, les routes ne s'éclairent que lorsque des voitures passent ou des passants passent, et le reste du temps, la route ne reste pas nécessairement éclairée.
Oui, absolument. Engie Afrique met à disposition des infrastructures urbaines du type éclairage public qui contiennent aussi des principes d'efficacité énergétique. Donc ça, effectivement, ce sont des programmes que nous développons. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que toutes les nouveautés, toutes les innovations qui vont venir maintenant sur le marché et qui vont être implantées dans les pays devront contenir une application digitale qui rend service aux citoyens. Par exemple, votre besoin de Wi-Fi, de charger un téléphone au travers d'une borne, ce sont des choses que nous regardons actuellement au sein de nos incubateurs. Donc effectivement, oui, nous pouvons combiner la sécurité, nous pouvons combiner les besoins des usagers avec de la technologie qui soit au niveau de l'efficacité énergétique très, très intéressante.
Depuis le début, quand même, on voit bien avec les témoignages que, bien sûr, que quand on a sa voiture, son chauffeur, sa prise USB, on n'est pas concerné par tous ces problèmes-là, si ce n'est peut-être par les embouteillages où là, tout le monde est au même niveau. comment le smartphone, les innovations avec les applications connectées, est-ce que ça peut contribuer à réduire les inégalités entre les voisins et les voisines?
Alors moi, ça tombe bien, parce que ce que j'avais en tête, c'était de rappeler que la ville durable appelle à l'équilibre, même entre le social, l'économie et l'environnement. Donc c'est quand même assez important de rappeler qu'il s'agit de trouver des réponses à des équations. Oui, il y a énormément de possibilités aujourd'hui. Oui, nous ne sommes pas logés à la même enseigne. On a des possibilités, ça ouvre un champ de jeu incroyable qui appelle à la créativité, à l'innovation, mais surtout à l'adaptabilité des solutions. Parce qu'on a très vite fait d'importer des modèles ici ou là pour juste apporter de l'innovation,
ouais, dire
parce
que c'est technologique.
Nous avons, voilà. Maintenant, j'aime bien ce parallèle, j'aime bien comparer dans nos équations l'Africain ou nous, Africains, à soit un rugbyman, soit à un pompier pyromane. Pourquoi rugbyman? Parce que nous avons toute la capacité, nous avons le génie de savoir transformer les essais. Et donc, cette affaire de transposition, nous pouvons plutôt la transformer en inspiration et adapter, parce que nos cultures, notre culture, a aussi de l'innovation à apporter. Pompier pyromane, parce que à travers ces solutions qui restent souvent mal appréhendées, mal abordées ou pas suffisamment, nous anéantissons nous-mêmes les meilleures solutions.
À quel moment l'Afrique joue au pompier pyromane dans le domaine des applications connectées?
Si je prends la question de l'urbanisation, on construit des routes sans forcément prévoir dès maintenant qu'il y a un plan d'urbanisation à mettre en place, sans forcément prévoir qu'il y a un pôle de développement économique à monter. Quand je parle de la question des déchets, c'est exactement les mêmes problématiques. Nous importons des solutions alors qu'il y a des solutions dont nous pouvons en bénéficier. Oui. Le point structurel, ou en tout cas le point d'équilibre entre le social et l'environnement ou l'économie, amène aussi à la création d'emplois, la création de richesses. Nos villes doivent pouvoir aussi intégrer ces composantes et les solutions que nous apportons doivent pouvoir, que ce soit l'entrepreneur, que ce soit l'économie, que ce soit le politique. La question des financements de ces projets pose également les mêmes débats. Est-ce que ce sont des solutions qui sont adaptées aux solutions dont nous avons réellement besoin?
Il y a énormément justement, on va poser la question à Hardadian Diaye, parce qu'avec l'ADER, donc avec le budget que vous avez annoncé, donc plusieurs dizaines de millions d'euros pour financer pas que, bien sûr, des start-up dans le numérique, aussi d'autres types de PME pour tenues, innover, raconter, créer par des jeunes, par des femmes. Est-ce que ces start-up du numérique peuvent améliorer la gouvernance, si tant est qu'elles accèdent au financement, pour une urbanisation plus efficace, notamment?
Oui, nous, on pense que c'est un tout. C'est pas seulement le financement qui va venir résoudre tous les problèmes. Il faut beaucoup d'accompagnement. C'est pour ça qu'on veut les mettre dans un incubateur où ils vont trouver financement, de l'accompagnement surtout, parce que c'est ça qui est essentiel. L'accompagnement touche la gouvernance d'entreprise. La plupart de ces start-up sont informelles, méconnaissent la fiscalité, leurs obligations, etc. Et au sein de l'incubateur, il s'agit de les appuyer pour qu'ils maîtrisent toutes les fonctions d'une entreprise, qu'ils soient aptes à être des entreprises pérennes. Parce que pour la plupart, c'est des idées magnifiques, extraordinaires, qui nous touchent, parce que ça règle un problème particulier pour la population. Mais comment en faire une idée rentable? Comment aller sur le marché? C'est souvent des questions qu'il faut soulever avec eux et les accompagner à résoudre ces problèmes. Comment attirer des fonds d'investissement? Parce que quoi qu'on dise, on parle d'un problème de mobilité, mais pour résoudre ce problème de mobilité, c'est beaucoup de ressources, beaucoup de financement, et c'est souvent du capital investissement. Il faudra attirer les fonds d'investissement pour qu'ils viennent s'intéresser au projet de ces start-up.
Mais par exemple, Ndeye Seratiam, jeune étudiante à Polytechnique Thiès, est-ce que vous connaissez l'ADER, la Direction de l'entrepreneuriat rapide, organisme officiel sénégalais de votre pays?
Oui, je connais, parce qu'il y a de nos professeurs qui nous en parlent, mais je n'ai pas réellement vu visiblement cette structure au niveau peut-être des jeunes entrepreneurs que je connais.
Vous n'avez pas eu l'idée de déposer une candidature pour trouver un financement à l'ADER?
Oui, bien sûr.
Vous ne l'avez pas fait, ça?
Non, pas encore.
Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous avez bien candidaté pour RFI Challenge Up Afrique. On est plus proche de vous?
Oui, mais comme
on est plus proche de vous que la DER.
Oui.
Comment c'est possible?
La DER doit passer sur RFI, voilà.
Mais oui, voilà, on est là, c'est pour ça que j'en profite. Hein. J'en profite pour beaucoup faire la promotion de la DER auprès des Sénégalais, mais auprès de tous nos voisins africains, pour qu'ils viennent résoudre les problèmes de la ville africaine à travers le cadre vraiment incitatif que le Sénégal offre, parce que c'est vraiment tout un ensemble. Hein. C'est vraiment une Start-up Act qui va bientôt être validée à l'Assemblée nationale, qui vous permet de travailler en paix, de vous concentrer sur votre métier, d'éprouver votre prototype, d'aller sur le marché et de lever finalement des financements, parce qu'il y a tout un dispositif que l'État du Sénégal a mis en place. Et on ne le fait pas par pure philanthropie. Hein. On est conscient, monsieur disait tantôt, que nos villes font face à un problème d'urbanisation extraordinaire.
Ouais, et surtout avec une rapidité qu'on n'a jamais vue dans le monde. C'est exactement ça le plus complexe, c'est de trouver des réponses très efficaces et très rapides dans exactement les villes du continent africain. On redonne la parole. Il y a Oumar qui voulait prendre la parole. Oumar.
Bonjour Emmanuel.
Oumar, vous avez vécu des années aux États-Unis et au Canada.
Ouais.
Et vous souhaitez mettre l'accent sur un problème qui vous titille, sur lequel vous attendez de l'innovation, des applications connectées. Il s'agit notamment de tout ce qui est canalisation, fuite d'eau, etc.
Vous avez raison. Je remarque, par exemple, dans la ville de Dakar, il y a beaucoup de quartiers où, par exemple, il y a des tuyaux de canalisation qui se déversent dans les rues. Et je pense qu'il serait bien d'avoir une application qui permettrait de signaler, par exemple, le service des eaux, qu'il y a un problème des travaux à faire. Mais il est vrai que beaucoup de ces applications qu'on crée en Afrique ou au Sénégal n'ont pas tellement de suivi ou d'aboutissement, parce que les structures manquent d'abord. Et puis, on a besoin en Afrique d'une révolution psychologique, comme le disaient certains de ses auditeurs. Il faut changer d'abord les mentalités.
Ouais. Alors ça, on l'a déjà dit, mais en tout cas, vous avez mis l'accent sur quelque chose d'intéressant, Oumar. Merci pour votre intervention. Concernant les fuites d'eau des canalisations, sur le continent africain, mais pas que d'ailleurs, il y a une énorme déperdition d'eau. En admettant qu'il y ait aujourd'hui, peut-être que ça existe dans certains pays, hein, je ne sais pas, là vous allez nous dire, des start-up qui permettent avec des applications connectées de signaler les fuites des canalisations, en admettant qu'on puisse les voir, que ce ne soit pas sous terre. Hein. Mais qu'est-ce qui fait ensuite que derrière, il y a une maintenance, une administration, une gestion de l'eau qui va aller réparer les canalisations ? Carole Henry.
Alors c'est, effectivement, ces applications, ces détecteurs, cet IoT existent déjà aujourd'hui. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on les implémente, on les intègre ou pas dans les circuits d'eau. Ça a un coût, hein. Tout ça, c'est un coût assez élevé. Mais dans les pays, comme, par exemple en France, ça existe déjà. Et l'entreprise qui est en charge de l'eau, de la distribution de l'eau, dote ses réseaux de ce type de capteurs. Donc je pense que c'est un problème d'investissement, là. Et au-delà de ça, quand vous avez effectivement un citoyen qui s'aperçoit d'une fuite, il peut, à mon avis, tout à fait contacter la société d'eau qui se doit d'intervenir. Là, je vous donne une réponse assez standard, mais pour moi, c'est presque du bon sens, je dirais.
On prend encore un auditeur dans la salle. Oh, il y a beaucoup de mains qui se lèvent.
Bonjour Emmanuel, je suis Guinée, République de Guinée-Conakry. J'aimerais signaler le gouvernement africain, il y a tellement d'accidents de route ici au Sénégal et c'est moi en Guinée-Conakry.
Oui.
Comment ils vont faire et diminuer ça? Parce que j'ai remarqué, pendant des années, il y a tellement d'accidents de route, il y a des victimes. Maintenant, les chauffeurs aussi, il y a tellement de chauffeurs qui sont en train de faire n'importe quelle chose sur les, oui, sur les routes.
Oui. C'est une bonne question, hein. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir posée, parce que bon, la voiture connectée en Afrique, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais est-ce qu'on peut imaginer des applications pour améliorer le respect du code de la route, la formation également?
C'est un sujet extrêmement important. L'Afrique détient le taux d'accident le plus élevé au monde par rapport au nombre de voitures qui circulent. Et c'est un vrai sujet. Alors, par-delà le civisme, et c'est vrai, ça commence par le civisme, comme vous disiez si bien, mais on peut tout à fait imaginer des applications, d'abord qui permettent de repérer plus facilement les fauteurs de troubles, de suspendre leur permis ou que les voitures se bloquent automatiquement ou qu'on les repère dans la ville pour les sortir de la circulation, que les feux, par exemple, à certains carrefours, certains feux qui ne fonctionnent pas. Donc, ils créent aussi une certaine pagaille dans la circulation. Mais je crois, par-delà le civisme, on peut effectivement imaginer des applications qui rendent la circulation plus intelligente et les sanctions beaucoup plus sévères, honnêtement. Parce que la sanction fait défaut dans beaucoup de nos pays.
On arrive au terme de ce débat. Je crois qu'en tout cas, vraiment grâce aux auditeurs, on a bien vu, on a bien mis le doigt sur les besoins, sur les problématiques et puis tout le chemin aussi qui reste à parcourir. Un mot de conclusion, les uns et les autres. Peut-être Carole Henry de NG Afrique.
Alors oui, le mot de la fin en ce qui me concerne, moi j'ai envie de dire que le futur est devant nous et que je pense qu'on en a parlé. On a parlé de civisme, on a parlé de volonté politique, on a parlé de volonté du citoyen. Mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles solutions que nous devons développer doivent aller dans un seul sens, le bien-être social et le bien-être de la planète. Et je pense que là-dessus, il ne faudra pas hésiter à investir dans des solutions propres pour nous préserver nous-mêmes, en fait.
Didier Akwété ?
Avec un continent aussi jeune et les problématiques d'emploi, de développement, il est vraiment indispensable que les applications, puisqu'on parle de ville durable et technologies associées à la ville durable, qu'on essaie de rester le plus pratique possible. Et c'est vrai, dans les compétitions, on voit beaucoup de jeunes arriver avec des idées, certes intéressantes, mais qui n'ont pas de déclinaison opérationnelle. Donc, c'est simplement rappeler que dans ce concept de ville durable, d'une jeunesse qui est vraiment la part de notre population la plus représentative, qu'on essaie d'être pratique lorsqu'on développe des solutions pour nos villes et les applications.
Ouais, alors j'aimerais bien avoir le point de vue là, des trois finalistes avant qu'on donne la parole pour la conclusion à la direction de l'entrepreneuriat rapide au Sénégal. Comment vous avez vécu ce débat, Nadia Hilaridassi, vous qui êtes une jeune entrepreneuse, ingénieure au Cameroun, par rapport à toutes les restrictions aussi qu'on a émises sur l'avenir de ces start-up?
Le débat était très intéressant. J'admire vraiment la jeunesse ici présente. Mais moi, j'ai un problème au niveau de la jeunesse. Quand les jeunes disent qu'ils sont créatifs, mais il y a des freins, l'environnement freine. J'aimerais raconter l'histoire en fait de deux enfants, des jumeaux, issus d'un parent alcoolique et d'une mère qui ne prêche pas l'exemple. 30 ans après, on retrouve les jumeaux. L'un est en prison et on lui demande comment a-t-il fait pour se retrouver là? Il dit, avec les parents, avec la vie que j'ai reçue, qu'aurait pu-t-on attendre de moi? Le second, on le rencontre également. Lui, il est devenu un homme d'affaires, prospère, riche et tout. Il répond la même chose. Avec les parents, avec la vie que j'ai reçue, qu'aurait pu-t-on attendre de moi? J'aimerais que chaque jeune se pose la question, pourquoi deux personnes dans le même environnement décident d'agir différemment face à certaines situations? C'est comme ça que l'Africain doit réfléchir, c'est comme ça que le jeune doit réfléchir, parce que l'avenir, le monde dans lequel l'Afrique nous voulons bâtir, personne ne viendra le faire à notre place. C'est à nous, la jeunesse, de bâtir cette Afrique. Merci.
Merci beaucoup, Nadia Hilaridassi. Donc, le projet Green Electricité au Cameroun, Ndeye Siratiam.
Ce que j'aimerais en fait lancer aux autorités, peut-être sénégalaises, c'est en fait la DER, par exemple, c'est une initiative qui est vraiment bien. Par exemple, nous, en commençant notre start-up, nous ne savions pas vraiment où aller ou vers qui nous tourner. Donc, quand nous entendons parler des structures comme ça, ça nous rassure vraiment, ça nous met dans l'environnement et j'encourage ce genre d'initiative. Je pense que c'est tout ce qui nous manque, en fait.
Kevin Cessé, pour la Côte d'Ivoire.
Moi, je crois fermement en la créativité de cette jeunesse africaine qui est étonnamment résiliente. Et j'aimerais lancer un appel au grand groupe. On n'a pas vraiment besoin de subventions, etc. On a besoin de clients, on a besoin de contrats d'affaires. Donc, des grands groupes. Il y a déjà, je pense, des entreprises comme Engie qui travaillent dans ce sens-là. Je pense que les grands groupes auraient intérêt à collaborer davantage avec des startups. Merci.
Et on va donner la parole à Hardiatian Ndiaye de la délégation à l'entrepreneuriat rapide par rapport à tout ce que vous avez entendu. Peut-être vous allez aussi avoir envie de répondre à la finaliste sénégalaise.
Oui, tout à fait. Ce qu'on a vu cet après-midi, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté. Vous avez confirmé que la jeunesse africaine, elle est créative. Elle veut apporter des changements. Et aujourd'hui, l'accès à la technologie, il faut la démocratiser. Il faut que vous ayez accès à plus d'objets connectés, beaucoup plus de capteurs, et que vous puissiez laisser libérer votre énergie, en fait, nous proposer des solutions pour que nos villes soient plus connectées, plus sûres, comme on a dit, plus économes. Parce que l'enjeu en Afrique, ce n'est pas trop d'optimiser les services existants. L'enjeu, c'est de pouvoir fournir des services essentiels pour nos populations et à moindre coût et rapidement. C'est des services d'inclusion financière, donc de fintech, des services de logistique pour résoudre tous les problèmes de territoire qu'on a, des problèmes e-agri pour manger plus sain, gérer plus économiquement l'eau, produire mieux, faire sortir toute cette créativité, bien commercialiser nos produits. Donc vraiment, il y a énormément de problématiques sur lesquelles nous avons échangé aujourd'hui et sur lesquelles les solutions existent. Maintenant, il nous faut juste canaliser toute cette énergie créatrice et l'ADER vous ouvre les bras, vous ouvre ses portes à vous, Sénégalaises, à toute la jeunesse africaine.
Dans Merci. Quelques jours, vous allez annoncer d'ailleurs pour la délégation à l'entrepreneuriat rapide le montant et ce qui va être alloué et pour qui ?
Alors, donc l'année dernière, nous avions investi 1,5 million d'euros sur 44 startups qui sont un peu sur les problématiques qu'on a abordées cet après-midi. Et dans quelques semaines, c'est 4,5 millions d'euros que nous allons investir sur les trois prochaines années pour accompagner les startups du Sénégal.
Vous voulez dire un mot de conclusion, Didier, à côté ?
Non, que la jeunesse est vraiment vibrante et que grâce à telle jeunesse, on peut réellement transformer l'Afrique. Et je crois que c'est l'esprit de 7 milliards de voisins et des fameux JPAC, les jeunes patrons de l'Afrique qui gagnent.
Voilà, on essaye. Merci à vous tous, Hardia Tandia, Didier Akwete, Carole Henry, Edem Dalmeda. Dans quelques instants, la remise du prix RFI Challenge App Afrique. Claire Edon, responsable des magazines à RFI, va me rejoindre.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Suspense.
Alors avant évidemment de dire quel est l'heureux élu aujourd'hui ou l'heureuse élue, j'avais quand même quelques mots à vous dire de finalement pourquoi RFI se lance dans ce RFI Challenge App Afrique tous les ans. D'abord parce qu'on reproche beaucoup aux médias de parler que de ce qui va mal et en gros de faire de l'afro-pessimisme. Et c'est pas vrai, on parle aussi de ce qui marche et on a envie de mettre en avant, de rendre visibles les talents et c'est un des objectifs de ce RFI Challenge App Afrique. Et on a vu, je suis d'accord avec ce qu'a dit Didier, vraiment il y a des jeunes qui ont des idées et qui ont du talent. C'est aussi encourager l'innovation en faisant un prix comme celui-là, parce qu'on sait bien que ça va donner des idées aux autres, ça va peut-être vous donner des idées, vous, dans le public, sur ce que vous pourriez faire. Et puis on sait que ça sert de levier, c'est-à-dire on sait que pour les autres lauréats, ça les a un peu boostés dans leur travail. Ce n'est pas simplement le prix qu'on leur donne et 15 000 euros, parce qu'on a bien conscience que ça ne suffit pas et qu'il faut plus, mais ça sert de levier. Et puis, je voudrais vraiment remercier les sponsors sans qui nous ne pourrions pas faire ce genre de projet. Donc, je voulais remercier NG Africa, la Société Générale, Africa Global Recycling, Schneider Electric. C'est évident que sans vous, on ne peut pas faire et qu'on a besoin là-dessus de travailler ensemble. Et ça me paraît important. Alors, maintenant, l'heureux élu, c'est ça que tu veux savoir.
Alors, Nadia Hilary Dassi pour Green Electricity pour le Cameroun. On peut encore l'applaudir. On va les applaudir tous les trois. Daïsira Thiam pour Ibus au Sénégal. Kevin Cessé pour Mon Artisan en Côte d'Ivoire.
Alors, l'heureux gagnant est Kevin Cessé pour Mon Artisan. On peut l'applaudir. Et alors, je veux tout de suite dire un mot aux deux autres. Vous avez évidemment... Kevin. Voilà, vous avez raison. Faites-les se lever aussi.
Venez, Kevin, venez.
Bravo aussi aux deux autres finalistes. Parce que, vraiment, vous avez fait preuve d'abord de courage, d'innovation, d'idées. Et on va continuer à suivre ce que vous devenez aussi, vous, et on ne va pas s'intéresser qu'à Kevin, voilà. Et évidemment, on a envie d'une réaction de votre part.
Je suis heureux de recevoir ce prix-là, et j'ai été bluffé par les projets de Thiam et de Nadia. Ça a été de très beaux projets, et j'espère que ce prix-là servira d'effet de levier pour que dans un an, deux ans, Mon Artisan soit réellement une success story.
Ouais. Mais comment vous vous sentez là ?
Bien. Très heureux en tout cas, très heureux.
Est-ce que vous avez envie de faire passer un message à la jeunesse qui vous écoute ?
comme je l'ai dit, je crois en la créativité de cette jeunesse-là. Et j'invite tous les jeunes ici présents à être entreprenants, à être persévérants. Il n'y a rien de mieux qu'entreprendre, parce qu'entreprendre, ça permet de créer des emplois, ça permet d'offrir un mieux-être à pas mal de personnes. Merci.
Kevin, le chèque de 15 000 euros, vous allez en faire quoi ?
Le chèque de 15 000 euros. Déjà, il faut dire qu'aujourd'hui, mon artisan collabore avec près de 350 artisans. Et on ne peut pas toucher une frange qui est la frange la plus vaste. Donc, des personnes qui sont illettrées, des personnes qui ne connaissent rien à Internet, qui n'ont jamais vu de smartphone. Donc, nous utilisons ces 15 000 euros-là pour pouvoir renforcer les compétences de ces personnes-là et pour pouvoir les connecter aux clients pour qu'ils aient davantage de revenus. Nous allons également utiliser une partie pour améliorer également notre technologie et également acquérir davantage de clients.
On peut vous applaudir, Kevin Cessé. Bravo, bravo à vous. Il a du mal à s'en remettre, là.
Voilà.
Dur, hein ?
Voilà, c'est dur.
C'est dur d'être récompensé.
Ouais, surtout les questions. Hein. Je n'aurai pas de questions encore.
Ah, c'est les questions du jury. Donc. Voilà. Didier Acoueté, j'aimerais que vous disiez un mot sur le choix du jury, parce que ça a été une décision à l'unanimité. Dites-nous pourquoi.
Tout d'abord, félicitations à tous les trois. Et c'est vrai, c'est des projets magnifiques. Personne n'a démérité. Pourquoi nous avons retenu finalement le projet de Kevin ? Nous voulions récompenser, bien sûr, un projet qui répond à une vraie utilité sociale, qui est très pratique et qui peut donc être approprié par les populations assez rapidement, les utilisateurs, et puis aussi qui, dans son modèle économique, peut en tout cas générer une rentabilité sans aller chercher trop d'investissements qu'il peut ne pas trouver quand il lance son projet. Personne n'a démérité, mais voici quelques raisons qui ont incité le...
Il y a toujours un gagnant. Un ou une gagnante.
En fait, tout le monde est gagnant. Il y en a un qui repart avec un chèque, certainement, mais tout le monde a gagné, sauf que quelqu'un repart avec un chèque.
Bravo à vous trois. On peut vous applaudir. Et bravo aux gagnants. Kevin Cessé, Mon Artisan, une application donc qui est déjà déployée en Côte d'Ivoire. Bravo et merci aussi à vous tous, les voisins, les voisines, d'être venus. On est ensemble chaque jour à 10h10, temps universel. Et demain, 7 milliards de voisins. L'émission sera en public à l'École supérieure polytechnique sur le campus de l'UQAD. On parlera de l'éducation des filles. Elles sont maintenant majoritaires dans les écoles primaires, dans les collèges, dans certaines facultés ou grandes écoles. Alors, est-ce que c'est la fin d'une longue route ? On regardera un petit peu dans la rétroviseur pour ceux à qui ça semblerait tout à fait évident, pour comprendre comment l'égalité a fait son chemin au Sénégal. Et bien sûr, les étudiantes et les étudiants, on vous attend très nombreux pour participer à ce débat à la même heure. Merci et salut à tous.
Mercredi.